Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et le thème de ce week-end est le sentier octuple avec ses 8 branches. Et je sais que c'est pas mal à couvrir en seulement 2 jours. Et surtout que une des choses qui sont importantes durant ces week-ends, c'est que vous pratiquiez la méditation. Donc, je ne veux pas parler pendant des heures. Donc, je les couvre un petit peu brièvement. Mais dans la discussion avant la fin de la matinée, puis aussi dans la fin de la journée, on peut voir les points qui vous concernent, qui vous intéressent, qui ont besoin d'un peu plus d'explications ou de choses comme ça. Et donc, hier... Donc, je ne suis pas en train de les faire dans l'ordre, parce qu'il y a une liste de ce sentier octuple, qui est généralement vision bénéfique, intention appropriée, action appropriée, parole bénéfique, moyen de gagner sa vie appropriée, pleine conscience bénéfique, j'intervertis toujours les deux, effort approprié et concentration bénéfique. Et donc, hier, nous avons couvert, nous avons commencé par la concentration appropriée, la pleine conscience bénéfique, puis après la vision bénéfique et l'intention appropriée. Et donc, il nous en reste 4 à couvrir aujourd'hui. C'est pas mal, mais bon, on va essayer de... ce que je fais avec ce sentier octuple, comme c'est par rapport à la vie quotidienne, comme c'est par rapport à notre méditation dans ce monde moderne, je ne vais pas les couvrir d'une façon très exhaustive, mais nous donner un peu quelques indications par rapport à la méditation, et aussi quelques indications, quelques lignes d'orientation par rapport à comment utiliser ceci dans notre vie quotidienne. Et donc ce matin, je vais voir si je peux couvrir 2 choses qui est effort approprié, effort bénéfique et action appropriée, action bénéfique. Et puis je reprendrai un peu l'action l'après-midi aussi. Et donc cet après-midi, je finirai avec parole appropriée ou bénéfique et moyen de gagner sa vie appropriée ou bénéfique. Et donc, effort juste, effort approprié, effort bénéfique. C'est en fait, si on regarde la définition de cet effort dans le chemin octuple, c'est très intéressant parce que de nouveau, le Bouddha nous indique, nous oriente vers une exploration des conditions. Ce qu'il faut faire aussi attention avec ces chemins, ces sentiers, ça ne veut pas dire qu'on doit cultiver, pratiquer 100% tout le temps, dans tout moment, dans toutes circonstances. C'est vraiment des orientations, c'est vraiment, on pourrait voir chaque sentier comme un moyen d'exploration d'un aspect de notre vie et d'un aspect de la pratique dans notre vie. Et donc, pour l'effort juste approprié, en fait, c'est ce qu'on appelle les 4 grands efforts. Et ces 4 grands efforts, je pense qu'on va un peu continuer la discussion qu'on a eue hier. Hier, il y a eu une discussion à plusieurs reprises au sujet de qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit ne rien faire ou est-ce qu'on doit faire quelque chose? Il y a toujours un peu cette ambiguïté par rapport à la méditation. Est-ce que j'accepte quelque chose ou est-ce que je le transforme? Ou est-ce que dans l'acceptation de cette chose, il y a une transformation? Donc, on peut aussi continuer cette discussion avant le repas, la pause du repas. Parce que ici, dans les efforts, les 4 efforts, en fait, il y a un certain engagement à faire quelque chose, en fait. Pour moi, c'est ça qui est très intéressant par rapport à ces efforts. Donc, le premier, c'est de lâcher lâcher les états négatifs qui sont apparus. Le deuxième est, on peut presque dire, énigmatique, mais plein de possibilités. Empêcher que les états négatifs qui ne sont pas encore apparus n'apparaissent pas. Troisième, maintenir les états bénéfiques qui sont apparus. Quatrième, permettre que des états bénéfiques qui ne sont pas encore apparus apparaissent. Alors moi, ce que j'aime, c'est que généralement, il y a toujours une exploration multiple, complexe, des conditions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lâcher un état négatif qui est apparu? Alors ça, c'est souvent ce qu'on appelle le lâcher prise. Et vous arrivez et vous avez un ami, surtout un ami bouddhiste et méditant, et vous lui dites « J'ai ce problème, c'est dur, c'est affreux. » Et le copain, copine vous dit « Lâche prise, laisse aller. » Et alors on se dit « Allez, lâche prise, laisse aller. » Et généralement, ça marche très peu. Alors là, il faut voir, je pense, lâcher prise dans le sens que de se rendre compte que s'il y a un état négatif qui est apparu, il y a beaucoup de chances que nous sommes en train de nous accrocher à quelque chose. Je pense que c'est un peu comme une indication de remarquer que j'ai un état négatif, soit je suis obsédée par quelque chose, ou soit j'éprouve un ressenti déplaisant, et je suis pris. Alors ça revient un petit peu à ce que je parlais hier des quatre niveaux. Quand quelque chose peut être positif ou négatif, mais c'est léger, et là, quand c'est léger, généralement, le lâcher prise consiste à juste rester avec et ça passe tout seul. Après, le deuxième, c'est quand c'est un peu habituel, répétitif. Et là, de nouveau, il y a une autre indication pour ça. Et le troisième, c'est quand c'est très intense. Et je pense que quand le Bouddha dit laisser passer, laisser tomber, lâcher les états négatifs, je ne pense pas qu'ils disent arrêter les états négatifs. Parce que souvent, on prend comme ça, il faut que je les lâche, et ça veut dire qu'ils doivent s'arrêter. Mais est-ce que lâcher les états négatifs veut dire plus ne pas s'agripper aux états négatifs, ne pas s'accrocher aux états négatifs? Parce que dans un sens, si on s'accroche à l'état négatif, il y a un danger qu'on va l'amplifier. Tandis que si on fait l'expérience de l'état négatif, mais qu'on ne s'y accroche pas, généralement le principe de l'impermanence va être là. Donc à un moment donné, ça va passer. Et donc, c'est là où la pleine conscience bénéfique vient en place. Le fait qu'on va se rendre compte qu'on est dans un état négatif. Alors généralement, vous me dites, mais oui, je le sais. Si je vais mal, je sais que je vais mal. Mais comment on sait qu'on va mal? Est-ce qu'on est pris par le truc et on est totalement identifié et submergé, perdu dans l'état négatif? Ou est-ce qu'on amène, comme on parlait hier, cette pleine conscience qui a cette stabilité, cette ouverture, cette exploration à l'état négatif? Et donc l'état négatif est toujours là, on le ressent, ça ne va pas l'arrêter, mais du fait qu'on s'en rend conscient d'une manière, c'est pour ça que le samasati, sati c'est d'être conscient, sama ça veut dire qu'on apporte une pleine conscience qui est appropriée, qui est bénéfique à ce qu'on est en train de regarder. Et donc là, le lâcher l'état négatif, c'est pas arrêter l'état négatif, mais c'est, est-ce que je peux ne pas m'identifier, m'accrocher à l'état négatif, parce que là, il y a beaucoup de chances que ça durera plus longtemps. Après, il y a le deuxième. Alors là, c'est un peu de la prévention. C'est un peu de la prévention. C'est un peu quand on va à côté, on marche au bord d'une falaise et il y a des panneaux qui nous disent « Attention, falaise !» Ne pas trop se pencher, ne pas trop s'approcher. Parce que si on s'approche trop, on a des chances de tomber. Et donc là, le Bouddha est en train de nous dire, est-ce que avant que quelque chose arrive, on pourrait aider à ce que cela n'arrive pas? Et moi, je trouve que ça, c'est très connecté avec le second niveau dont j'ai parlé par rapport à l'impermanentiel, qui est les habitudes répétitives. Donc, si on prend le principe de hier de la vision appropriée, bénéfique, on se rend compte que les choses sont impermanentes. Et donc, même si les choses se répètent, elles n'existent pas en permanence exactement tout le temps, 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que si quelque chose arrive et que ça se répète, il devient intéressant. Donc cette prévention, c'est pas, de nouveau, ça ne veut pas dire empêcher que quelque chose se passe. Mais ça veut dire explorer les conditions qui font que quelque chose a plus de chances ou non de se passer. Et donc là, de nouveau, on amène cette vision appropriée, cette vision bénéfique qui est de regarder quelles sont les conditions qui vont peut-être faire que quelque chose a plus se passer que pas. Et donc de nouveau, ça nous ramène à la pleine conscience qui est de regarder quand un état négatif arrive et s'il se répète une fois par semaine, une fois par mois ou quoi que ce soit, quelles sont les conditions qui ont l'air de le faire venir? Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment, dans un sens, regarder, explorer. Quel peut être le déclencheur? Quel est le cycle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais l'expérience? Quelles sont les conditions? Quelles sont les circonstances qui contribuent? Et là, c'est parce que, comme je disais hier, souvent on se dit « je suis toujours comme ça ». Mais généralement, on n'est pas toujours comme ça. Mais on peut remarquer que si on est fatigué, on peut plus facilement faire certaines actions ou dire certaines choses que si on n'est pas fatigué. Si on est stressé, on peut avoir un ressenti très différent. Si on va vite, ça, c'est un qui est intéressant. Si on va vite, si on est pressé, de nouveau, ça peut... si on est pressé et qu'on descend les escaliers, on va plus facilement tomber que si on n'est pas pressé. Parce que si on est pressé, c'est presque qu'on est au début de l'escalier et on est déjà en bas. Mais on n'est pas à descendre les escaliers. Et donc, c'est dans un sens de regarder... quelles sont les choses qui vont dans un sens faire qu'un certain état négatif pour moi-même et pour les autres va se produire. Et moi, je trouve que c'est une pratique dans la vie quotidienne qui est très intéressante à faire. Moi, c'est quelque chose que je fais au long cours dans un sens, de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je répète ça? Quelles sont les conditions qui font que je répète ça? Il y a très longtemps, j'étais irritable. Et donc, tout à coup, je me ressentais un état négatif d'irritation. Et généralement, je trouvais quelqu'un pour être irrité avec. Parce que bien sûr, ce n'était pas ma faute. C'est la faute des autres. Et jusqu'au moment où je me dis, mais la personne n'a rien fait. Et donc, si la personne n'a rien fait, pourquoi moi, je ressens un état d'irritation? Et donc là, après, j'ai commencé à m'intéresser. Je ne suis pas irritée tout le temps. Donc, quand est-ce que je suis irritée? Donc, j'ai mis la pleine conscience sur qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que c'est quand ça change. C'est ça qui est intéressant par rapport à la vision juste. Quand est-ce que mon état change? Et là, je me suis rendu compte que quand j'étais fatiguée, ça faisait que mon niveau nerveux était un peu plus élevé. Et donc, mon système nerveux étant plus énervé, paf, je partais dans l'irritation. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'être plus consciente dès le début d'être fatiguée et d'aller me reposer. Et après, j'étais beaucoup moins irritée. Et c'était toujours mieux pour les autres autour de moi. Parce que c'est pas juste pour moi, cet état négatif. Parce que souvent, quand on est dans un état négatif, déplaisant, c'est pas seulement nous qui vont souffrir, mais souvent, on va en faire souffrir les autres. On va le partager avec les autres. Comme ça, on n'est pas tout seul. Après, le troisième effort, et ça, c'est un très bel effort, et c'est l'effort de maintenir. Maintenir l'état positif, l'état bénéfique, quand il est apparu. Et en fait, cet effort ne requiert peu d'efforts. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, c'est presque comme une reconnaissance. Et donc, de nouveau, on amène cette pleine conscience qui va remarquer autant les états négatifs que les états positifs. Parce que, bien sûr, comme on a un biais vers les états négatifs, on les verra plus facilement. Mais là, la pleine conscience va nous aider à être autant conscients des états positifs que négatifs. Et quand c'est ça qui devient intéressant, c'est que quand on devient conscient, mais d'une façon appropriée, bénéfique, stable, équilibrée, des états positifs, juste ça nous aide à ce qui continue plus. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'en étant pleinement conscient d'un état positif, en fait, c'est comme s'il était plus là pour nous. Au lieu d'être ailleurs, au lieu d'être dans l'abstraction, on est vraiment conscient de l'état. Et en étant totalement conscient de l'état, dans tout le corps, l'être, c'est comme si ça faisait une résonance qui va continuer. Et qu'en plus, si on ne fait rien, mais juste être avec, ça va continuer plus longtemps. Alors ça, c'est vraiment un effort qui est facile. Et c'est un effort qu'on peut des fois remarquer en méditation. Alors des fois, quand on médite, tout à coup, on va se sentir très très bien. On va se sentir calme, on va se sentir clair, on va se sentir stable. Et généralement, quand on ressent un état positif comme ça, souvent on se dit en méditation, chouette, chouette, il faut que je l'approfondisse, il faut que je découvre la vacuité avec ça, où généralement on s'excite un peu, et généralement l'état disparaît, de part un peu comme une sorte d'acquisition dont on parlait hier. Mais si on ne part pas dans cette acquisition de l'état, mais juste d'en faire l'expérience, et juste d'être avec, en fait l'état va continuer plus longtemps. Mais bien sûr, l'état va disparaître à un moment donné, parce que comme toute chose, c'est impermanent. Ça va un peu dépendre de l'énergie qu'on a. Quand l'énergie est un peu finie, ça va changer. Et donc, un peu, par rapport à cet effort juste de reconnaître, ah oui, mais pas de nouveau, pas de reconnaître d'une façon de convoitise, mais de reconnaître d'une façon d'appréciation. Juste d'apprécier, ah oui, là je suis bienveillante, ou là je suis claire, ou là je suis calme. Et juste être pleinement conscient de cet état. Et que quand on fait ça, généralement, ça va continuer un peu plus longtemps. Donc dans le sens, on le maintient sans faire rien que en être conscient, avec cette pleine conscience appropriée et bénéfique. Et après, il y a le quatrième état. Effort, c'est permettre, aider que des états bénéfiques qui n'ont pas encore apparu apparaissent. Et donc, dans un sens, c'est qu'est-ce qui va m'aider à être plus clair, plus stable, plus calme, plus bienveillant. Et alors, c'est à chacun de nous de voir qu'est-ce qui nous aide. Et je présume qu'en partie, moi, ça serait une de mes raisons principales, c'est pour ça que j'ai commencé la méditation et c'est pour ça que je continue à faire la méditation. Parce que dans le sens, moi, j'ai commencé à faire la méditation parce que je voulais que ça m'aide à être plus calme, plus éclairé, avoir plus de sagesse, avoir plus de compassion. Et en le faisant, j'ai vérifié que oui, ça apportait plus de ces qualités. Et donc, c'est tout un travail qu'on fait par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je vais être en clarté ou en compassion 100% tout le temps de la même manière, mais que je peux m'orienter vers ça. Donc, que je pense que ici, cet effort, c'est un peu un rappel. C'est se rappeler que c'est notre intention. Donc, on revient un peu à l'intention juste de hier. Le fait que j'ai cette intention, c'est quelque chose que je veux cultiver. Et donc ici, quand il parle d'effort, il parle qu'on va faire quelque chose. Et là, je pense que quand on parle d'effort approprié, on peut aussi apporter un peu cette notion qu'on trouve dans le zen, dans le sol, d'effort sans effort. Et donc, je pense qu'il va y avoir différentes sortes d'efforts. Des fois, l'effort, c'est sans effort dans le sens qu'on n'a rien à faire. Quand on maintient l'état bénéfique, on est avec. Ou quand, un petit peu, on s'efforce d'être avec l'état négatif sans rien faire avec. Mais pour préparer le terrain, généralement, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, il faut cultiver cet effort. Donc, on peut essayer de méditer, on peut essayer, par exemple, de s'ancrer dans le souffle, qui, si ça nous convient, peut nous aider à être plus calme et plus stable. On peut s'ancrer dans le corps parce que ça va peut-être nous aider à être plus incorporé, à être plus, avoir comme un socle. On peut essayer de faire la méditation de l'écoute pour nous aider à plus d'ouverture, la méditation de la bienveillance pour essayer de se regarder soi-même, regarder les autres peut-être d'une autre façon. Et il y a aussi cette méditation qui, je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de faire ce matin si vous l'avez déjà faite ou si vous voulez un petit peu essayer. Et c'est la méditation sur la tonalité du ressenti. Et donc, on utilise les mêmes choses, on utilise la respiration, le corps, les sons. Et on va y ajouter un petit quelque chose qui est du ressenti. Dans le sens que quand je vois quelque chose, quand j'entends quelque chose, il y a une petite tonalité. Donc ce n'est pas une émotion complexe, mais c'est juste une petite tonalité. J'aime ça. Je n'aime pas ça, ou c'est désagréable, ça ne me fait rien. Et on peut voir ça très facilement avec les couleurs. Là, on a ces vitres, vous avez du jaune, du vert, du rouge, du bleu, du opaque. Et si on les regarde, ces vitres, en fait, ça nous fait un effet différent. Les couleurs ne nous ont rien fait. Je pense que le jaune, le marron, le noir, généralement, les couleurs ne nous sautent pas dessus. Elles ne nous ont rien fait. Mais dès qu'on voit une couleur, on a un ressenti différent si on voit du orange que du rouge, que du marron, que du beige, que du noir. Donc, il y a... Et cette tonalité est construite, bien sûr, et conditionnée par différentes expériences qu'on a eues, etc., etc. Et J'amènerai cette pratique beaucoup à l'action juste. Je parlerai plus cet après-midi. Mais je vais vous dire rapidement la définition de l'action juste. S'abstenir de prendre une vie, s'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné, s'abstenir de conduite sexuelle inappropriée ou qui cause du tort. Et moi, quand je lis une définition comme ça, je me dis, en général, je ne vais pas attaquer quelqu'un, je ne vais pas voler quelque chose, je ne vais pas avoir une conduite sexuelle inappropriée qui cause du tort. Mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais prendre une vie, je pourrais voler quelque chose, etc. Et généralement, ce qui va changer le fait qu'on ne fait pas quelque chose, ça va être la tonalité du ressenti. Alors, je ne vais pas prendre la vie d'un être humain, mais un moustique. Alors, nous, quand on était en Corée, on ne tue rien. Steven est très bon pour ça, en fait. Avec un verre et une carte postale, on attrapait les mouches, les moustiques, et puis on les mettait dehors. Mais quand il y a un moustique, on est la nuit, on va dormir, et puis... Alors on se dit, oui, que tu sois heureux, en paix, tout ça, mais pas dans la chambre. Puis finalement, on se réveille, on essaie de l'attraper, puis finalement, chlac. Donc, qu'est-ce qui va se passer généralement? C'est que on le voit comme une vie pendant un moment, qu'on va respecter parce que tout bouddhiste respecte toutes les vies. Puis à un moment donné, la tonalité va être à un certain niveau désagréable, que bah, va y avoir l'action. C'est ça qui est intéressant. De voir qu'en fait, souvent, nos actions vont beaucoup dépendre de la tonalité que l'on ressent. Et donc c'est pour ça que je pense que ça peut être une méditation très intéressante en termes de ce quatrième effort qui est d'essayer de développer de telle sorte qu'on ait des états bénéfiques. Alors bien sûr on peut cultiver différentes choses, mais après de voir qu'est-ce que c'est aussi qui fait que les états négatifs arrivent ou qu'on a une action qui va causer du tort ou si on veut voler quelque chose, c'est la même chose. Si on vole quelque chose, peut-être qu'on vole. On va pas voler les choses, mais on va être tenté. On va se dire, puis on va voir le prix. Ça, c'est intéressant. On voit quelque chose, je le veux. Puis après, on voit le prix. Et après, on se dit, et si je le volais Et c'est intéressant parce que là, vous avez deux tonalités. Une tonalité par rapport à la chose, qui est agréable, et une tonalité par rapport au prix, qui est désagréable. Et avec les deux, ça peut nous induire à voler la chose, etc. etc. Et donc, dans un sens, cette méditation, la pleine conscience de la tonalité, peut-être en fait une grande exploration par rapport à après explorer l'action juste, l'action appropriée. Donc on va peut-être essayer de faire ça ce matin. Et donc par rapport à être conscient de, je vais faire une petite méditation guidée, mais de voir que par rapport à la méditation, surtout ici en ce moment, il y a donc ces trois tonalités, mais il y a beaucoup de tonalités. Vous avez plaisante de 0 à 10, vous avez déplaisante. Si vous arrivez à fermer, vous voyez, petite. Non, la tonalité est déplaisante, on ferme la fenêtre totalement.
L'action.
Oui, action. Justifiée. Pour ceux qui ont froid. Voilà. Ok. Et donc, c'est juste, on va apporter une petite touche. On ne va pas essayer de répertorier les tonalités, Mais on va garder le truc très simple et juste apporter une petite touche dans soit être conscient de la respiration, soit être conscient du corps, soit descendre. Donc je vais vous faire quelque chose comme une méditation guidée, un peu brève, pendant les 30 minutes, pour vous donner une impression de ce qu'on essaie de faire. Mais on n'essaie pas de cataloguer, de lister, mais on essaie juste d'être un petit peu conscient de la tonalité du ressenti, mais aussi de voir que quand on s'assoit en méditation, souvent la tonalité va être un peu neutre. Donc, il ne va pas y avoir grand-chose à voir. Donc, on va mettre un peu son attention sur quelque chose de relativement neutre, comme la respiration. Mais après, si on regarde le contact avec les sensations, s'il y a des sensations, peu de sensations, de nouveau, ça va être plutôt neutre. S'il y a des sensations plaisantes ou déplaisantes, on va voir un petit peu plus de... Le niveau, le spectre va être un peu plus grand. Et avec les sons, ça va être un peu plus évident. On entend un petit oiseau, tuit, tuit, tuit. Puis si soudainement le truck, le camion qui vient avec la benne passe, ça va peut-être un peu être différent. Et après, on va faire la méditation marché. Et là, dans la méditation marché, ça sera beaucoup plus évident, surtout avec la vision, quand on voit quelque chose. Généralement, on peut voir plus les différences par rapport aux tonalités. Donc, si on trouve une position confortable, le dos, les doigts droits, les épaules relâchées. D'abord, on va mettre son attention sur le souffle. On peut sentir l'air qui pénètre dans les narines un peu plus frais et qui ressort un peu plus chaud. Quand nous sommes en contact avec l'air qui est un peu plus frais, qui pénètre dans les narines, est-ce qu'on peut être conscient d'une certaine tonalité du ressenti? Est-ce que cette tonalité du ressenti change un petit peu quand on est en contact avec l'air qui ressort? Maintenant, nous pouvons continuer avec la pleine conscience de la respiration, où nous pouvons amener la pleine conscience, l'étendre aux sensations de contact du corps. Peut-être le visage avec l'air, les pieds sur le sol ou les fesses sur le coussin, ou les mains sur elles-mêmes. Quelle est la tonalité de ces sensations de contact? Plutôt neutre. Maintenant, nous essayons de poser notre attention peut-être sur des sensations spécifiques dans le corps, en plus générale de chaleur ou de fraîcheur, ou soit des sensations spécifiques. Quelle est la tonalité du ressenti? Si la sensation disparaît, est-ce que la tonalité disparaît avec? Si la sensation continue. Maintenant, nous pourrions nous tourner vers les sons, nous ouvrir, accueillir les sons. Quand nous entendons un son, quelle est la tonalité de ce contact? Si le son disparaît, est-ce que la tonalité disparaît avec? Si le son continue, est-ce que la tonalité reste? Donc maintenant, il y a de la méditation marché, à peu près 25 minutes, si on peut revenir à 11h moins le quart. Et là, vraiment, dans la méditation marché, surtout dehors, c'est vraiment une bonne opportunité d'essayer cette méditation de la pleine conscience, de la tonalité, du ressenti. Et surtout avec ce que l'on voit. Parce que si on explore la tonalité du ressenti, bien sûr, on pourra en discuter plus tard, il y a une forte influence de la perception. Quand on perçoit quelque chose d'une certaine manière, il y aura une certaine tonalité. Et si soudainement on la perçoit différemment, il y aura une autre tonalité. Mais pour le moment, on peut juste le garder simple. Donc vous faites votre marche et c'est à vous de voir si vous voulez faire la méditation marcher sur le corps et être plus conscient de la tonalité par rapport aux sensations, ou par rapport au son, ou par rapport à ce que vous voyez. Et moi, je trouve que la méditation marché, c'est bien pour introduire ce contact avec ce que l'on voit, qui a beaucoup d'influence sur nous, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement faire quand on est assis en méditation ici. Et donc, je me retrouve dans... Mais bien sûr, si certaines personnes veulent continuer à juste méditer ici, c'est bien aussi.